Bonjour, Michel et Anne de Palestine 13 vous accueillent pour une heure en Palestine. Aujourd'hui, nous accueillons Monica Tienne, qui est militante depuis de nombreuses années pour la cause palestinienne et aussi membre du Conseil national de l'AFPS. Monique a participé au mouvement féministe, internationaliste, toutes les luttes anticoloniales, aussi depuis beaucoup d'années. Monique,
bonjour.
Bonjour, bienvenue. Donc, comment la Palestine est venue dans votre parcours?
C'est une histoire qui remonte à 1967, donc à la guerre ce qu'on appelle la guerre des six jours. J'avais donc 17 ans. Et je suis d'une famille qui a été très marquée par la guerre et par le génocide des Juifs. Et c'est ce qui est vraiment a constitué leur engagement à la libération de la France en 1945. Et moi-même, j'ai été vraiment traumatisée dans mon enfance par l'histoire du génocide des Juifs, par les camps de concentration, par les camps d'extermination. Donc j'ai été extrêmement sensible à la question juive. Et en 1967, bien évidemment, on ne parlait absolument pas de la Palestine, enfin des Palestiniens. Les mots palestiniens n'existaient pas et on vivait, y compris dans la gauche, mes parents étaient à gauche, dans ce mythe d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre, tel qu'était défini à ce moment-là Israël et la naissance d'Israël. Et donc en 67, toutes les radios disaient que Israël était agressé, que les Arabes voulaient les Israéliens à la mer, etc. J'étais engagée à La Rochelle avec la communauté juive. Et puis peu de temps après, mes parents donc étaient des militants pour la paix et pour la rencontre avec les autres peuples. Il y avait un week-end tiers-monde, comme ça s'appelait à l'époque, et j'ai rencontré un Palestinien. Et ça a été un choc pour moi, parce que je me suis rendu compte que même avec des bons sentiments et cette volonté vraiment de combattre le racisme et l'antisémitisme, on pouvait se faire manipuler. Et j'ai découvert la question palestinienne. Et j'ai découvert qu'il fallait toujours avoir l'esprit critique, comprendre et surtout s'informer avant de décider d'une action. Et voilà, c'est comme ça que mon engagement pour la Palestine a commencé.
Vous êtes allé plusieurs fois en Palestine et Israël et vous êtes revenu le mois de novembre l'année dernière suite à un séjour dans le cadre du programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et Israël d'un séjour de 3 mois. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme et pourquoi vous êtes parti avec cette structure?
Alors, d'abord, pourquoi je suis partie? Parce que, je vais en Palestine depuis 1993, donc avant les accords d'Oslo. J'ai suivi régulièrement toutes les étapes depuis les accords d'Oslo jusqu'au 7 octobre. Mais surtout, après le 7 octobre, j'étais comme beaucoup de gens qui ont une conscience quand même de ce qui se passe, de la tragédie inadmissible et qui se passe à Gaza, j'ai été traumatisée, je crois. Et vraiment, on ne pouvait plus aller en Palestine parce que toutes les missions de solidarité telles que nous les organisons à l'association France-Palestine étaient arrêtées. On ne pouvait plus aller sur place. Et j'ai entendu parler de ce programme EAPPI par sa coordinatrice nationale, Marilyn Pacouret, qui fait partie aussi du Conseil national de la FPS. Et je me suis dit, je veux partir, je veux aller sur place, je veux rencontrer les Palestiniens de nouveau. Et c'est pour ça que je suis allée là-bas.
Alors, parlez-nous un petit peu de la formation avant de pouvoir entrer dans le programme, avant de partir. Par quoi vous avez dû passer et combien de personnes étiez-vous et d'où venez-vous?
Alors, donc, on était... c'est un programme très sérieux. C'est pour ça aussi que je suis partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait véritablement un encadrement et une protection aussi de la sécurité, de notre propre sécurité. Alors, on est parti. Il faut d'abord remplir un dossier très complet sur ses motivations, sur qu'est-ce que l'on peut apporter ou qu'est-ce qu'on croit pouvoir apporter. Ensuite, on a une formation de 8 jours en Suisse aux techniques de la non-violence, comment se comporter en cas de confrontation. D'ailleurs, on nous demande d'éviter toute confrontation, hein, parce que pour nous, il n'est pas question dans ces programmes de prendre parti. Il est question d'observer et de témoigner. Mais si on est confronté quand même à la violence des soldats ou la violence des colons, comment agir? Après, il y avait toute une formation sur la connaissance de la situation avec des Palestiniens, avec des Israéliens, avec des Juifs qui travaillent en Europe et avec des militants internationaux. Donc, c'était très complet. Ensuite, le dossier est accepté et quand on arrive à Jérusalem, on arrive pendant 8 jours, tous réunis, donc les 16, là nous étions 16 donc accompagnateurs. Pendant 8 jours, on apprend d'abord à se connaître les uns les autres et surtout on continue aussi à vivre des situations, comprendre, rencontrer des interlocuteurs. Donc, c'est très riche et très complet.
Donc, il y a les personnes qui partent tous les 3 mois, c'est bien ça?
Alors, oui, on était à la 100e mission. On peut dire qu'il y a plus de 1700 accompagnateurs depuis que le programme a été créé en 2002, suite finalement à ce qu'on a appelé la deuxième intifada et à la violence que subissaient les Palestiniens, à l'appel donc du Conseil mondial des églises et des églises palestiniennes. Ce qui fait que c'est vraiment, on nous demande à la fois de témoins, de soutenir les communautés vulnérables, de se mobiliser face à l'impunité et aux menaces. Et une grande partie de notre travail, c'est relater les incidents. Donc, les incidents, ce sont les violations des droits humains que nous pouvons constater sur place. Et de faire des rapports qu'on envoie tous les jours, à chaque fois que nous faisons une action, qui est répercutée au Conseil mondial des églises à Genève, et ensuite dispatchée dans toutes les organisations internationales pour mentionner les violations. C'est très important.
Monique, bonjour à tous. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que le Conseil œcuménique des églises est une organisation importante que vous venez de souligner. Mais manifestement, il n'y a aucun retour, par exemple en France, au niveau de l'Église catholique. Est-ce que vous avez une explication à cette forme de silence par rapport à un témoignage qui pourrait être apporté en dehors des missions de paix, ce qu'on appelle en Terre Sainte?
Sur la question de pourquoi, je peux difficilement vous répondre. Je pense que c'est aux chrétiens engagés, catholiques engagés, qui peuvent répondre sur cette question. Donc c'est plutôt, je retournerai plutôt la question. Mais je pense que de toute façon, ce silence rejoint certainement le silence global. Parce que quand même, on s'aperçoit qu'en France, les médias ont silencié et continuent à silencier quand même la tragédie et le génocide à Gaza. Et puis peut-être le silence de l'Église depuis fort longtemps. qui peut rejoindre aussi le silence que pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment du génocide des Juifs. Et aujourd'hui, eh bien, au nom du génocide des Juifs, on fait le silence sur la tragédie qui est en train de vivre le peuple palestinien.
Donc, autant plus important, les témoignages là-bas, sur place, donner voix OIX plus voix OIE aux Palestiniens, revenir chez soi, donner voix à leur voix et continuer à interpeller les politiques et tous les organismes et dénoncer les injustices et faire que la vérité de la situation soit faite. Alors, est-ce qu'il y a, Monique, une espèce de journée type pendant ces 3 mois là-bas, ou est-ce que chaque jour était différent? Est-ce que vous pouvez...
Alors, d'abord, je voulais dire que nous étions 16, donc, pour cette 100e mission, venue d'Europe. Donc, il y avait des Britanniques, des Norvégiens, des Danois, des Allemands, un Suisse... Et nous étions 2 Français, un pasteur protestant et moi-même. La journée type, en fait, il n'y avait pas de journée type. Ça dépendait. Il faut répondre d'abord aux sollicitations. Donc les sollicitations, ça peut être des démolitions de maisons, c'est-à-dire aller vraiment... Il y a énormément de démolitions qui se passent, surtout à Jérusalem, dans le quartier de Silwan, ou dans d'autres quartiers, dans les villes d'Anata, dans d'autres villes, vers Choufat, etc. Ce sont des démolitions qui viennent parce que la plupart des Palestiniens ne peuvent pas... n'ont pas de permis de construire autorisé par Israël, la puissance occupante d'Israël. Et donc, ils sont obligés de démolir les maisons qu'ils ont construites sans permis. Et donc, c'est aller sur place, c'est recueillir le témoignage et c'est témoigner. L'autre journée type, si on peut dire, c'est l'accès à l'éducation, c'est accompagner les enfants dans les communautés menacées. Quand je parle de communautés menacées, c'est des communautés qui ont reçu des ordres d'expulsion ou des démolitions de leur village bédouin, par exemple. Donc, c'est accompagner les enfants pour leur permettre une sécurisation sur le parcours de l'école. L'autre aspect aussi, c'est d'être sur les checkpoints au moment de l'appel à la prière pour la montée de la mosquée à l'Aqsa le vendredi, et de vraiment documenter les violations, la façon dont les soldats interpellent les Palestiniens, les refoulent, les agressent avec une inhumanité et l'impression vraiment que ce ne sont pas des humains, en leur enlevant toute dignité.
Et comment vous avez pu documenter sur place? Est-ce qu'ils ont dû vous voir? Vous avez...
Oui, alors c'est très difficile. On a été des fois expulsés, refoulés. Mais en général, on essayait quand même d'être discret. On parlait, on faisait semblant de parler. On notait en même temps tout ce qui se passait. On essayait de prendre des photos, mais il fallait surtout pas être pris en faisant des photos. Et puis alors surtout, principalement, c'était de rencontrer les Palestiniens dans les communautés qui sont menacées et qui nous demandent de venir. Parce que c'est là que c'est très important, Anne, vous disiez à quel point témoigner, parce que c'est ce qu'ils nous demandent. Ils nous disent, mais vraiment, soyez les porteurs de notre voix. Quand vous revenez en France, c'est très important de savoir d'abord qu'on n'est pas seul, et de savoir en plus que notre voix sera entendue, que vous parlerez de notre vie. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'était aller dans les villages menacés par le plan E1 à Jérusalem, qui est un nouveau plan, c'est un plan très ancien d'ailleurs, mais qui a été avalisé le 21 août, donc 2 jours avant notre arrivée, et qui va... La conséquence sera de couper définitivement la Cisjordanie en 2 parties, d'isoler complètement Jérusalem. Et le ministre, par exemple, Smotrich, Benazel Smotrich, qui est le ministre de la Défense, pas, le ministre, pardon, des Finances et chargé de l'administration civile de la Judée-Samarie, comme ils disent, pour parler de la Cisjordanie, se vantait d'avoir, avec ce plan, d'en finir définitivement avec la possibilité d'un État palestinien. Et il y a 22 communautés bédouines qui vont être expulsées. Et donc, nous essayons de visiter ces communautés, mais principalement, trois villages presque très importants où nous allions régulièrement une fois par semaine. C'était le village de Khan el-Ahmar, le village de Jabal el-Baba et le village de Nabi Samuel.
Bon, on va continuer de parler de la situation après un moment de pause tout à l'heure. Juste pour terminer avec l'équipe de ce programme ce trimestre. Donc, vous étiez en binôme, je crois. Et chaque binôme allait dans un lieu particulier
alors,
où vous
non,
étiez
alors, sur les 16, personnes, accompagnateurs, nous étions répartis sur 4 lieux. Donc 4 à Jéricho pour la vallée du Jourdain, 4 à Bethléem pour tout ce qui est les communautés menacées par les colonies de Gush Etzion, 4 à Yatta, dans les collines d'Hébron, qui est un exemple emblématique de la colonisation aujourd'hui, et 4 à Jérusalem. Donc moi j'étais à Jérusalem, et nous étions 4. Soit nous nous déplacions à 4, soit nous nous déplacions 2 par 2. En général, quand nous allions dans les communautés, nous partions tous les 4. Nous avions un chauffeur qui connaissait très bien la situation et qui nous permettait effectivement de passer facilement les checkpoints, puisqu'il est de Jérusalem et qu'il avait donc les fameuses plaques jaunes qui sont un peu le sésame pour pouvoir passer partout. Bien évidemment, si nous avions été avec un taxi qui aurait été avec des plaques palestiniennes, là, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait.
Donc, ce sont les lieux phares. Et le programme existe depuis 2002, si j'ai bien compris, c'est ça.
Oui.
Donc, c'est les lieux phares qui ont besoin des internationaux sans cesse. On va bientôt faire
une
pause.
Là, je parle de Jérusalem exclusivement, parce que partout, dans tous les placements, bien évidemment, ils allaient dans les communautés dans la vallée du Jourdain qui sont menacées par la colonie, enfin... Dans chaque, c'était un peu notre parcours.
Dans vos déplacements, est-ce que vous aviez l'impression que les autorités israéliennes vous surveillaient ? Ou est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir une certaine autonomie dans les déplacements, dans les rencontres que vous avez faites ?
De toute façon, je pense que la surveillance, elle est partout. Par exemple, si nous allions à Jabal el-Baba ou à Khan el-Ahmar, surtout à Khan el-Ahmar d'ailleurs, parce que ils sont cernés par ce qu'on appelle aujourd'hui les avant-postes de colons, qui ont les caméras, qui ont des drones, qui ont tout ce qu'il faut au niveau électronique, et donc ils savent pertinemment que nous venions. Après savoir s'ils savaient qui on était, nous, précisément, personnellement, non. Mais en tous les cas, ils savaient qu'on était là. Et après, ils pouvaient faire pression sur la communauté bédouine en question. Ensuite, dans les rencontres que nous pouvions avoir avec... Parce qu'il y avait aussi tout un aspect de rencontres avec des organismes internationaux de défense des droits. Là, il n'y avait aucun problème, puisque c'était dans Jérusalem. Et puis... non, je ne pense pas qu'on était systématiquement fichés. Mais par contre, il y en avait une consigne nouvelle et par rapport à l'évolution de la situation. C'est qu'avant, les accompagnateurs APPI avaient un gilet qui les identifiait, un peu comme les soldats de l'ONU, etc. Et aujourd'hui, il nous était demandé de ne pas mettre ce gilet parce que ça devenait effectivement dangereux. On ne pouvait être désigné comme cible par les forces de défense israéliennes.
زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجان يرى. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى.
Monique, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dans votre témoignage, c'est que vous avez été de multiples fois en Palestine, mais vous y avez été dernièrement en 2022. Et donc, vous avez un témoignage qui montre l'évolution entre 2022 et aujourd'hui, enfin, durant votre mission. Donc, cet aspect-là me semble extrêmement important. Et ce qui serait intéressant, je pense, pour les auditeurs, c'est de comprendre en quoi les colons sont vraiment le fer de lance du système colonial israélien.
Alors, quand je suis allée en 2022, j'avais été frappée par la dégradation quand même et la montée de la violence, puisque en fait, je suis revenue 8 jours avant l'assassinat de Shirin Abu Ishi, la journaliste palestinienne qui a été tuée dans le camp de Jenin. Donc, déjà, on sentait effectivement une volonté de tuer toute résistance dans les camps de réfugiés. Et il y avait énormément de jeunes qui se faisaient tuer. Et quand j'étais rentrée, d'ailleurs, en 2022, j'avais écrit un article pour Palestine Solidarité, la revue de la FPS, en disant que, de toute façon, la situation était très tendue et qu'il allait se passer quelque chose. En fait, le 7 octobre, on a voulu nous faire croire que le 7 octobre, ça venait comme ça. Non, ça s'explique par de longues années d'occupation, de répression, d'humiliation. Bon. Mais là, ce qui m'a frappé encore plus cette fois-ci, c'est à quel point tout est sous contrôle. Tout est enfermé. L'enfermement des Palestiniens, il est complet. Et il peut être à tout moment que toutes les villes, tous les villages soient clos. Et une maîtrise du terrain, de la situation qui est énorme. Donc j'ai senti, d'une part, pour nos amis palestiniens, avec lesquels je travaille depuis longtemps, quelque chose de nouveau qui était une angoisse, une incertitude sur l'avenir et une insécurité. C'est-à-dire qu'ils ont conscience aujourd'hui qu'à tout moment, ils peuvent être tués. Et qu'à tout moment, enfin que rien n'est acquis, qu'ils peuvent se retrouver en prison, même s'ils le savaient déjà. Mais je crois que la violence de la répression aujourd'hui, ce qui se passe dans les prisons d'inadmissibles au niveau des tortures psychologiques, physiques, l'humiliation qu'ils subissent a des conséquences terribles. Et j'ai senti une peur d'une certaine façon, même s'ils continuent à résister. Et puis l'autre chose qui m'a énormément frappée, et je pense que là, c'est un véritable danger, c'est la violence sans aucune limite des colons. Et carte blanche a été donnée aux colons par le ministre Smotrich, qui est une sorte de gouverneur aujourd'hui de la Cisjordanie, qui fait l'administration civile de cette région, administration civile pour les colons, sachant que les Palestiniens sont soumis, eux, à la loi militaire. Donc déjà, c'est une discrimination de fait qui accentue encore la situation d'apartheid pour les Palestiniens. Et ces colons, moi je ne peux pas mieux les comparer qu'à des milices armées, qui sont absolument sans contrôle, parce qu'ils ont reçu des armes du ministre Benvir de la Sécurité, et que c'est un pouvoir parallèle qui est en train de se mettre en place en Cisjordanie, oui, et qu'il sera, pour les Palestiniens, eh bien, ils sont sous la terreur de ces colons qui interviennent dans les communautés, qui tuent les animaux, parce que ce sont des colons qui s'appellent des colonies pastorales. Donc, ce sont eux-mêmes, ils s'installent sur les collines, ils mettent 3 mobilhomes, un pylône électrique, et ils commencent comme ça, ils ont des animaux, ils empêchent les bédouins de faire pâturer leurs bêtes, où ils mélangent leurs animaux avec ceux des Palestiniens et après, ils prennent les troupeaux. Ils coupent l'eau, ils empoisonnent les sources. Enfin, il y a vraiment énormément de pression et ils interviennent à tout moment dans les communautés. Ils descendent la nuit où ils font pression en leur demandant de ne pas faire appel à quiconque ou de ne pas dénoncer ou de ne pas porter plainte.
Vous parlez de la violence des colons. Je pense qu'il faudrait aussi parler de la complicité des autorités militaires israéliennes. Ça forme un ensemble qui est tout à fait homogène et qui concourt probablement au même objectif. J'ai lu dernièrement, enfin très, très, très récemment, le rapport de l'association B'Tselem, qui est donc l'association israélienne de défense des droits de l'homme et qui témoigne des conditions de détention des Palestiniens, donc qui sont plus de 10 000 dans les centres de détention, dans les prisons. Est-ce que durant votre séjour, vous avez eu des témoignages directs des gens que vous avez rencontrés qui vous ont témoigné de ce qu'ils ont pu vivre s'ils ont été emprisonnés?
Oui, alors, par rapport à la première partie de la question, bien évidemment, il y a une complicité de fait entre les colons et l'armée. C'est-à-dire que vous employez le terme fer de lance, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux colons de faire le sale boulot de la colonisation, donc de l'extension et de la prise de terre. Dès qu'il y a une altercation, il faut soutenir bien évidemment les colons contre les Palestiniens qui sont menacés. Donc c'est évident. Et puis quand je parlais de l'enfermement des Palestiniens, ça c'est l'armée, c'est pas les colons. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux amis d'ailleurs que je connaissais, dont un vit dans le camp d'Aïda à Bethléem, qui est donc un réfugié et qui est l'âme un peu et un animateur fondamental de ce qu'on appelle la résistance populaire palestinienne, donc qui est très actif pour toute la défense de la terre et la défense des agriculteurs palestiniens. Et puis j'ai rencontré une femme aussi qui était très impliquée dans les luttes féministes à Naplouse. Les deux ont été emprisonnés de manière arbitraire après le 7 octobre. Et ils ont été en détention administrative pendant quelques mois, 4 mois ou 5 mois. Et j'ai été frappée quand je les ai retrouvés. C'est de voir à quel point, quand même, cette détention les a marqués. J'avais l'impression que en eux, il y avait une espèce d'angoisse et de vide intérieur qui était nouveau. Et Mundir me disait, par exemple, à quel point lui qui a déjà subi la prison, puisque les Palestiniens, le sort des Palestiniens, surtout ceux qui sont engagés pour se défendre contre la colonisation, ont tous fait beaucoup de prison. Donc c'était pas la première fois qu'il allait en prison. Alors ils sont très pudiques, donc ils ne vont pas parler, mais ce que je sais, et il nous l'a raconté, à quel point il a subi des humiliations qui sont des tortures psychologiques et physiques, c'est-à-dire le déshabiller, bien évidemment. Je ne vous parle pas, bon, on ne va pas aller dans les détails au niveau des agressions sexuelles, mais par exemple, on le faisait mettre à quatre pattes des gens lui marchaient dessus pour monter l'escalier, enfin des choses épouvantables. Et Maïssa, qui était donc de Naplouse, elle disait qu'elle ne voulait pas parler de ce qu'elle avait subi, mais qu'elle en rêvait toutes les nuits. Donc je crois qu'il y a une volonté actuellement dans l'emprisonnement de casser le mental. Et en plus de faire pression, c'est-à-dire quand on les a libérés, puisque quand on est en détention administrative, c'est l'arbitraire total, on l'a dit, vous savez, si on vous reprend à manifester ou à être aux côtés des communautés, eh bien, on vous reprendra et vous verrez, ça sera encore pire que ce que vous avez subi. Donc, je crois qu'il y a cette volonté de casser systématiquement tout ce qui est résistance aujourd'hui.
Et puis, il y a on en prend dans la famille, par exemple, on peut entrer la nuit chez quelqu'un, on casse les murs, on entre dans la chambre, oui. On prend l'enfant, il n'y a pas de raison, enfin on fait peur, et il n'y a pas de raison, les parents ne savent pas où est son enfant, enfin voilà.
La plupart d'ailleurs des gens que nous avons rencontrés, je vois Abou Ramis, qui est le leader de la communauté de Khan el-Ahmar, son fils est en prison. Il a été pris, justement, après le 7 octobre, en détention administrative. Et à chaque fois, d'ailleurs, le procès était reporté. Là, je ne sais pas où ça en est. Mais il y a cette pression-là, bien évidemment. C'était la même chose dans d'autres endroits. Jabal el-Baba, le fils de Atala, qui est un des responsables, a été blessé et emmené en prison. Nous étions dans une autre communauté. Le nombre de gens qui ont leur fils ou leur enfant qui a été pris de manière arbitraire, c'est une pression, bien évidemment. Ça fait partie de la réalité quotidienne aujourd'hui des Palestiniens.
Et les colons, où est-ce qu'ils en sont avec le système de justice? Est-ce qu'eux, ils sont... ils sont emmenés devant la justice quand
les
il
colons.
Y a les... Oui, les colons. Où est-ce qu'ils sont?
Jamais.
Jamais.
Enfin, ça peut arriver. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui a été filmé, vérifié, etc., pour que
mais il y a eu un cas, il y a eu le cas de Avda Hatalin à Massa Fayata.
Mais il a
récemment.
Il a été effectivement jugé, mais libéré. Et enfin, après,
oui, voilà, il était, et puis il s'est montré très fier d'être libéré, donc tout est possible.
C'est leur système. On fait une enquête, mais en fait, après, ça va pas plus loin.
C'est juste.
Par contre, par exemple, justement, Abou Jamil nous disait à quel point eux, quand ils vont porter plainte pour un vol de bêtes ou pour une agression, etc., en fait, on leur fait comprendre très vite que, ce que vous racontez, c'est pas vrai, puisque les colons, eux, ont porté plainte pour un vol de troupeaux. Donc, et même on leur fait comprendre que, pour certains, que s'ils vont porter plainte, on va les punir encore plus. On a rencontré, par exemple, dans le camp de Choufat, qui est un des grands camps de réfugiés de Jérusalem, un homme qui a été mitraillé au checkpoint alors qu'il allait au mariage de son fils, qui a été blessé profondément. Il a eu la mâchoire, la balle a traversé, et donc il a eu la mâchoire vraiment endommagée. Et il a failli d'ailleurs avoir le cerveau éclaté. Donc il est en très très mauvais état, il doit se faire opérer. Il n'a pas les moyens de le faire pour récupérer la mobilité de sa mâchoire et de sa parole. Et il racontait qu'en fait, on lui avait fait comprendre que s'il portait plainte, eh bien alors on l'accuserait d'avoir voulu tirer dans les soldats au checkpoint. Et qu'à ce moment-là, il serait emprisonné pour terrorisme. Donc, en fait, c'est une volonté de paralyser le recours à la justice. Ça, c'est un cas concret que j'ai vraiment documenté.
Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un droit qui existe en Israël, mais qu'en même temps, il y a une situation d'arbitraire qui semble être absolument totale, liée à la présence des colons est liée au régime d'autorité militaire en Cisjordanie.
Oui, je pense qu'il y a effectivement actuellement un arbitraire total. Cet arbitraire, malheureusement, n'est pas nouveau. Parce que je me souviens que mon premier voyage en Palestine, c'était 1993. À l'époque, je travaillais pour la revue Clara Magazine, le journal de femmes solidaires, un mouvement féministe en France. Et notre première action, c'était justement la libération des prisonnières palestiniennes. Et nous étions allés, à l'époque on pouvait le faire, maintenant on ne peut plus le faire, dans la prison d'Acharon pour rencontrer ces femmes. Mais déjà, il y avait un arbitraire total dans l'arrestation des gens au moment de la première intifada. Et cet arbitraire s'est poursuivi parce que c'est très lié au système colonial qui préside depuis toujours à l'occupation d'Israël. C'est-à-dire que quand même, quand on regarde les systèmes coloniaux en France, par exemple, au moment de la guerre d'Algérie, c'était le même principe. L'arbitraire, il est quand même total pour les populations qu'on veut soumettre et coloniser.
يوم عمويل الهوى يوم عمويليا يوم عمويل الهوى يوم عمويليا يوم عمويل الهوى يوم عمويليا For me, mama, mama, sing to the wind. I wish my bones could form a breeze. Is it better to die in freedom than a captive life in shame?
Your mom went ill.
Monique, moi, il y a un point qui me paraît extrêmement important parce que vous avez évoqué la dignité, d'une certaine manière, des Palestiniens soumis à l'ordre des colons et à l'autorité militaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passe dans la tête des enfants que vous avez pu rencontrer ?
C'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête des enfants. Ce que je comprends, c'est que les enfants sont à la fois certainement soumis à une telle insécurité, une telle angoisse, qu'on ne sait pas à long terme quelles seront les conséquences pour leur psychisme. Certainement qu'il y a des traumas qui vont se véhiculer plus tard. Ce qui est évident, c'est que ces enfants, comme tous les enfants, il suffit d'une étincelle pour qu'on voit à quel point ils ont envie de vivre et à quel point ils peuvent se projeter à ce moment-là. Nous avons, c'était un moment important aussi de notre mission, c'est d'apporter de l'espoir. Et donc, nous avons, grâce à une amie, une des accompagnatrices qui était allemande et qui pratique, entre autres, l'art-thérapie, nous avons pu travailler justement avec les enfants. Et c'est vrai de voir à quel point les enfants peuvent, d'un coup, par un objet résilient, parler de leur trauma et le mettre à l'écart d'eux-mêmes, avec cette espèce de sourire et de dignité qu'ils retrouvent très vite. On sent qu'il faudrait peu de choses pour qu'effectivement ils retrouvent une vie normale. Mais comment trouver une vie normale quand on est soumis à l'insécurité totale? Quand la nuit, l'armée arrive, rentre dans les maisons, dans les chambres à coucher, vole des choses et emmène leurs parents, leur père, leur mère, les humilie devant eux. Donc je pense qu'il y aura de toute façon des conséquences terribles. Il y a déjà des conséquences terribles. Je me souviens que justement en 93, déjà les femmes de Gaza commençaient à prendre en charge la thérapie des traumas de leurs enfants. Alors vous imaginez que c'était 93, vous imaginez la quantité de choses qui se rajoutent pour ces enfants. Donc ça fait des générations de toute façon qui sont marquées par cette histoire. Mais au-delà de ça, je crois que très souvent, effectivement, dans nos mouvements de solidarité, parce qu'il faut le faire, on parle justement, comme je viens de le faire d'ailleurs, de la situation dramatique que subissent les Palestiniens, l'enfermement, les prisons, et que très souvent on a un sentiment à partir de là d'incapacité, c'est-à-dire que c'est tellement lourd ce qu'on ce qu'on entend, qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et je pense qu'il est important aussi de montrer ce qu'on appelle le soumoud des Palestiniens. Le soumoud, c'est s'accrocher à sa terre. Et à quel point ils ont cette force en eux de résistance et au quotidien. Et qu'il suffit, par exemple, on a travaillé dans le camp de Kalandia, de réfugiés de Kalandia, avec les femmes. Les femmes, quand même, elles subissent encore plus peut-être que les hommes, puisqu'elles ont la charge de la famille, et que la plupart des mères ne savent jamais si leur fils ou leur enfant va rentrer le soir, s'il ne va pas être tué, etc. Eh bien, nous avons donc tout de suite vu à quel point ces femmes, dès qu'elles peuvent parler de leur vie, la parole, l'importance de la parole, elles retrouvent cette dignité. Et à travers leur thérapie, par exemple, elles ont pu dessiner, on leur a demandé de se projeter leurs rêves. Leur rêve, c'était quoi, en tant que réfugiées? C'était, elles ont dessiné des jardins, alors qu'elles sont enfermées dans ce camp. Elles ont dessiné des jardins et le village de leur origine, qu'elles ne connaissent pas, puisqu'elles sont nées dans le camp. Mais elles ont dessiné et peint le village tel qu'elle l'imaginait, auquel elles sont sûres de pouvoir retourner un jour. Donc je crois qu'il y a cette patience et cette résilience des Palestiniens qui, de toute façon, sont certains d'appartenir à cette terre et qu'ils veulent la défendre et rester sur cette terre. Donc je crois qu'il y a un aspect très positif et que ça aide aussi les enfants à se construire. Quand ils voient effectivement que la moindre occasion, j'étais au moment de la cueillette des olives, c'est un moment aussi terrible parce que la plupart des oliviers se trouvent dans les zones C et que les soldats empêchent les Palestiniens d'accéder à leurs champs. Mais quand ils peuvent cueillir les olives, on voyait tout de suite qu'il y avait toute cette continuité, cette identification culturelle à la terre, à l'arbre, à la vie, qui reprenait le dessus. Et c'était des moments de joie et de partage. Il y a tout ça aussi. La vie, elle continue. Et c'est ça aussi sur lequel on s'appuie. Et c'est eux-mêmes s'appuient aussi sur ça, dans ce qu'ils appellent le soumoud, qu'on peut appeler la résistance populaire.
C'est vraiment un exemple pour nous, la vie des Palestiniens qui refusent la haine, la division, qui sans cesse gardent les liens, tissent les liens. Quelles sont les perspectives du point de vue des Palestiniens? Comment ils voient l'avenir?
Alors, c'est à la fois ce qui est étonnant, donc, c'est que dans toutes les communautés que nous avons visitées, il y a une organisation. Ils ne sont pas abattus, ils sont anxieux, ils sont dans l'incertitude, mais ils construisent. Alors, partout, dans les villages que nous avons pu rencontrer, que ce soit dans les villages bédouins qui sont menacés, que ce soit dans les villages qui sont encerclés ou enfermés dans les murs ou dans les camps de réfugiés, il y a les femmes qui s'organisent pour une autonomie économique, soit en cultivant du za'atar, soit avec des olives, en faisant des pâtes d'olive ou en faisant des produits qu'elles vendent pour essayer d'avoir une autonomie. Il y a tout un travail sur aussi les violences, puisqu'on imagine que la société palestinienne, avec cette violence de la répression et de l'occupation, il y a aussi des violences du coup familiales qui se répercutent dans la vie quotidienne des Palestiniens. Donc il y a tout ce travail qui est pris en charge. Il y a justement le travail avec les enfants. Et puis il y a un peu partout dans les villages aussi. Je prends le village de Fakra, qui est dans le nord de Ramallah, qui est un des premiers villages écologiques de Palestine, et où toute la municipalité et la population a décidé de dire ça suffit, il y a les avant-postes des colons qui nous menacent, il y a toute cette agression que nous ressentons, la seule solution c'est de travailler collectivement, de se mettre ensemble, et donc ils vont ensemble dans les champs d'olivier, ils vont ensemble pour faire des travaux collectifs pour la réparation des terrasses qui ont été détruites par les colons, ils vont ensemble pour protéger les champs d'olivier avec des pierres, avec des barbelés de telle façon d'empêcher facilement les colons de rentrer. Et il se projette aussi dans la défense de la terre de manière écologique. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont organisé sur 125 mètres carrés, c'est-à-dire pas grand-chose, une ferme écologique. Pour montrer qu'il est possible, avec très peu de terre, d'assurer une autosuffisance alimentaire avec des légumes, avec ils ont réhabilité des serres, il y a un élevage de poulets pour les œufs, et l'eau, le compost, enfin, ils ont une conscience de la défense de leur terre, mais pas seulement contre, mais pour développer en fait un système d'agriculture durable, des semences, enfin, et ça c'est admirable et tellement en contraste avec Israël qui veut conquérir la terre mais qui la détruit, parce que on en parle très peu, mais les conséquences environnementales aujourd'hui en Cisjordanie pour la démolition de la terre, avec les constructions des murs, avec la construction, les colonies qui déversent leur il y a le problème des déchets. Enfin, en fait, ils n'ont aucun sens de la terre, eux. En fait, ils veulent la terre pour s'imposer par la colonisation, mais en ne la respectant pas. Et je trouve que c'est ça qui est très fort, par exemple, dans ce village de Fakra, mais que j'ai pu voir aussi du côté de Bethléem, avec la Tente des Nations, ou Malcher, un autre village, ou Ayata. C'est-à-dire qu'ils se défendent, mais en même temps, ils protègent la terre.
Et ce témoignage que vous restituez de la part des Palestiniens, est-ce que ça interpelle finalement les Israéliens qui sont en contact, soit les jeunes dans l'armée, soit éventuellement même des colons, peut-être, qui viennent pour des situations, non pas peut-être forcément sur un aspect idéologique, mais peut-être sur un aspect simplement économique. Est-ce que ça interpelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des échanges entre des gens qui sont Palestiniens, Israéliens, Juifs?
Alors, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, et heureusement, des Israéliens solidaires. Nous en avons rencontré, là, aussi bien pour la cueillette des olives, les rabbins pour la défense des droits humains. Il y a les Tayush, qui s'appellent Vivre Ensemble et qui permet un dialogue entre Palestiniens et Israéliens. Il y a New Profil qui travaille sur justement les exactions de l'armée. Nous avons rencontré des Israéliens de Breaking the Silence. Ce sont ces soldats qui ont décidé de témoigner de ce qu'on leur fait faire. Que l'armée leur fait faire contre les populations civiles palestiniennes, donc ces crimes de guerre dont ils sont témoins et qu'ils ont eux-mêmes commis. Il y a toute cette... Mais ce sont des minorités, mais elles ont le mérite d'exister. Il y a Peace Now qui fait un travail aussi de réflexion, de témoignage et de documentation sur les exactions des colons. Il y a Iramin, qui est une autre organisation avec laquelle on travaille et qu'on a rencontré et qui nous a fait faire d'ailleurs la tournée justement pour nous expliquer le danger du plan E1 pour Jérusalem. Ce sont des Israéliens, c'est une organisation israélienne de Jérusalem. Donc il y a toute ce ferment là, mais très disséminé à l'heure actuelle. C'est malheureusement pas une majorité de la population israélienne. On peut dire que la majorité de la population israélienne aujourd'hui, eh bien, malheureusement, est d'accord avec la politique israélienne de colonisation.
Et nous ici, que pouvons-nous faire pour conclure?
Alors, je crois que, de toute façon, c'est aussi l'axe que nous demandent les Palestiniens. C'est d'abord se baser véritablement sur le droit international. Tout est dit par le droit international et par le respect du droit international. Et là, nous avons fort à faire en ce moment pour défendre ce droit international qui est piétiné et jeté à la poubelle par Trump et par tous ces gens qui veulent revenir, en fait, à la domination impériale. Donc, agir pour faire appliquer le droit pour... et qu'est-ce que nous pouvons faire en France ? C'est ce que nous demandent aussi les Palestiniens, c'est d'interpeller nos élus, d'interpeller notre gouvernement, d'interpeller l'Union européenne pour faire appliquer ce droit. Et donc, nous avons des leviers. Les leviers, c'est le boycott, le désinvestissement et les sanctions, la campagne BDS. Boycott, c'est-à-dire personnellement, boycotter, ça engage chacun les produits israéliens qui viennent, entre autres, ceux qui y sont identifiés venant des colonies. Le désinvestissement, c'est faire pression sur nos entreprises et dénoncer tout ce qui peut être coopération de ces entreprises avec la colonisation et les amener effectivement à se retirer. On a quand même quelques avancées dans ce domaine-là. Et puis, c'est demander à l'Union européenne d'appliquer des sanctions, et à nos gouvernements d'ailleurs, d'appliquer des sanctions à Israël et entre autres la suspension de l'accord d'association entre Israël et la Palestine, donc ça c'est entre Israël et l'Union européenne, en appliquant l'article 2 de ces accords.
Est-ce que sur le plan immédiat, vous avez un commentaire à faire sur la proposition de la loi Yadan qui finalement veut lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme en obligeant, en amenant une interdiction d'une critique de fond sur la politique israélienne.
Oui, là pour l'instant, on se mobilise tous contre cette possibilité éventuelle qu'elle soit adoptée. Parce que si elle est adoptée, c'est notre propre liberté qui va en être la victime. Parce que, à partir de là, ce que je viens de dire là, ça pourrait être considéré comme de l'antisémitisme. Ça peut être considéré aussi comme... Ça peut rentrer dans le cadre de cette loi. Donc, je crois qu'il faut vraiment interpeller. Et je vous invite à ce niveau-là à aller sur le site de l'AFPS, francepalestine.org, pour signer la pétition et surtout envoyer des lettres à vos députés très, très vite, puisque ça doit être voté, discuté tout au moins le 26 janvier. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment agir là-dessus. Et puis une autre chose, la dernière, c'est qu'en ce moment, il y a aussi une ICE, c'est-à-dire une initiative de citoyenne au niveau de l'Europe. Il faut 1 million de signatures pour justement, qui est lancée donc par un certain nombre de députés européens, pour faire pression aujourd'hui, tout de suite, sur l'Europe, afin qu'il soit appliquée la suspension des accords d'association.
Merci Monique, merci beaucoup.
Merci Monique pour votre témoignage. Et puis,
à bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Cette émission a été préenregistrée le 25 janvier en vue de l'émission du 4 février.